Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Et Dieu fit donc cette étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Et il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit, et que la partie sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela terre, la partie sèche, et il appela mer, la masse des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y a des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours, les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles, et Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants, et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Et Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, et tous les êtres vivants qui nagent, et dont les eaux se mirent aussi à grouiller. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre, ce qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre de Dieu, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Courbons-nous un instant. Seigneur Dieu, nous te prions, comme Paul nous l'a enseigné dans l'Épître aux Éphésiens, nous te prions que par ton esprit, tu te révèles à nous, que tu illumines les yeux de notre cœur, que tu nous accordes une sagesse, un renouvellement de notre intelligence pour saisir ce que tu veux nous apprendre par ce texte, qu'on apprenne à te connaître davantage, qu'on apprenne à t'aimer davantage, toi le seul Dieu, le Dieu créateur, celui qui a autorité sur toutes choses, le souverain, le Dieu éternel, le Dieu trois fois saint. Et le Dieu qui se révèle à nous aujourd'hui, le Dieu qui nous aime aujourd'hui, qui nous a réunis en Église, que ton nom soit sanctifié, puis dirige notre étude. Au nom de Jésus. Amen. On va voir trois aspects dans ce texte à partir du verset 26 et jusqu'au chapitre 2, verset 3. Trois aspects de la dernière étape de la création qui concerne l'homme. Premièrement, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, que cet homme à l'image de Dieu a une situation particulière. Quelle est la situation de l'homme? Dans quel contexte il a été créé? Dans quel but? Qu'est-ce que ça change qu'il soit à l'image de Dieu? Et troisièmement, cet homme fait à l'image de Dieu voit offert par Dieu un repos. Le repos du sabbat, le repos du septième jour. À l'image de son Dieu, il est invité à se reposer en Dieu. Donc, premièrement, au verset 26 et verset 27, on voit que toute la création, comme on l'a lu à partir du verset 1, toute la création culmine à la création de l'homme. Toute la création est faite dans l'objectif de placer l'homme sur la terre. La terre est présentée comme le centre de l'univers, et sur la terre, ce qui est couronné comme l'œuvre de la création de Dieu, c'est l'homme, l'être humain. Le point culminant de la création. C'est la dernière étape de la création. Et on a remarqué qu'à chaque étape, ou à plusieurs des étapes, Dieu disait qu'il a vu et que c'était bon. Mais à la dernière étape, après avoir placé l'homme sur la terre, qui peut apprécier sa création, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était très bon. C'était complété. Et Dieu dit cela d'une façon solennelle. Même, il a proclamé plusieurs choses au long de sa création, que la lumière soit et la lumière fut, avec un ordre solennel. Mais ici, il y a une notion encore plus solennelle qui montre à quel point Dieu est résolu. Faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Puis même l'expression qui est utilisée, qui présente Dieu qui parle au pluriel, montre aussi un aspect solennel. Beaucoup de gens se sont interrogés sur la question « Pourquoi Dieu parle au pluriel? » Les Juifs avant nous, qui avaient la loi, se sont interrogés sur la question. Plusieurs rabbins sont venus à la conclusion, la position traditionnelle, et aussi celle de certaines sectes aujourd'hui, c'est de dire que Dieu est en train de s'adresser aux anges, à la communauté céleste, ou peut-être même qu'il est en train de s'adresser à la terre, ou à la création qu'il vient de mettre au monde, et qu'il leur dit « Faisons l'homme à notre image. » Mais vous voyez la faiblesse de cette interprétation-là. C'est comme si ça voudrait dire que l'homme est fait non seulement à l'image de Dieu, mais à l'image des anges ou à l'image de la terre. Ça ne fait pas de sens. On est fait à l'image de Dieu seulement. D'autres voient ici que c'est peut-être un pluriel de majesté, comme le roi Louis XIV qui disait « Nous nous portons bien aujourd'hui, nous nous sommes levés du bon pied, nous mangerons un bon petit déjeuner. » Mais la Bible ne présente pas le pluriel de majesté ailleurs. C'est possible que Dieu parle avec un langage de majesté, comme un roi, ou nous, mais on devrait trouver d'autres exemples ailleurs dans la Bible, mais il n'y en a pas. D'autres voient Dieu qui est en train de délibérer avec lui, qui se demande, est-ce que je vais créer l'homme à mon image? Comme s'il se posait une question. Mais encore là, on ne voit pas Dieu qui est en train de délibérer ou de réfléchir à voix haute. Il est plutôt résolu. Et de toute façon, les exemples qu'on a où est-ce que Dieu délibère ou est en train comme de réfléchir à voix haute, et il utilise le singulier. Comme dans Genèse 18, il dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » C'est comme s'il réfléchit à voix haute et il veut qu'on connaisse sa réflexion. Il parle au singulier. Ici, Dieu ne délibère pas, il déclare son intention. Comme il avait franchi toutes les étapes de la création, maintenant il arrive à ce qui était prévu. Ce n'est pas un hasard si l'homme apparaît sur la terre. C'était prévu. C'était prévu que ce soit la dernière étape, le couronnement de sa création. Donc, je crois que la meilleure interprétation, comme plusieurs d'entre vous le pensaient sûrement, je pense que la meilleure interprétation, c'est que Dieu ici nous donne un indice de sa Trinité, du fait qu'il est pluriel. Son nom Elohim est pluriel. Il a déjà donné un indice qu'il est plusieurs en un, en parlant de son esprit qui plane au-dessus des eaux, en parlant de sa parole qui est créatrice, comme si sa parole était un être à part, un instrument entre ses mains. Puis on apprend, plus tard dans la révélation biblique, que Dieu est effectivement trois personnes, en un. Puis, même avant le Nouveau Testament, où est-ce que c'est révélé d'une façon claire, on voit régulièrement dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Puis dans le texte, on voit comme une confusion voulue, que l'Éternel, le Dieu, puis il y a son ange qui est sur la terre, puis l'ange tout à coup est appelé Éternel. L'ange de l'Éternel, on peut comprendre qui est Jésus, apparu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, qui est Dieu, venu communiquer avec sa créature. Et Dieu crée l'homme. Pour nous, ça peut sembler très évident, Dieu a créé Adam et Ève, mais c'est un sujet débattu. Pendant une période de l'histoire, tout le monde a pris pour acquis, Dieu a créé l'homme et la femme littéralement, mais aujourd'hui, malheureusement, certains théologiens avancent des théories que Adam et Ève, en réalité, ne seraient qu'un mythe, si on emploie le mot technique, ou une image pour nous expliquer qui est Dieu et qui est l'homme par rapport à Dieu. Mais qu'en réalité, ce sont des personnages fictifs que Moïse, ici, a écrit, inspiré par l'Esprit, pour décrire comment l'homme est venu sur la terre, d'où il vient et quelle est sa relation avec Dieu. Mais pourtant, la Genèse ici ne présente pas Adam et Ève comme des personnages fictifs ou comme une image. C'est très clair qu'il est présenté comme des personnages ayant existé, le premier homme et la première femme sur la terre. Et tout au long de la Bible, il n'y a aucun doute qui est mis. À aucun passage où Adam et Ève sont mentionnés. Dans 1 Chronique, il y a une généalogie de l'humanité qui part de Adam et Ève, du début, qui passe par Noé, par Abraham, qui s'en va jusqu'au roi David, et qui présente les rois suivants dans Chronique. Ça paraît comme un... Pourtant, Chronique, c'est un livre des annales qui était écrit, qui était conservé à la cour du roi, et qui est un livre historique. Il présente Adam comme un personnage historique. Dans Luc 3, on voit aussi une généalogie. Donc, dans le Nouveau Testament, on voit la généalogie de Jésus. D'où vient Jésus? On remonte de père, de fils en père, en père, en père, jusqu'à fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Encore là, il n'y a aucun doute qui est mis. Jésus lui-même parle de l'homme et de la femme qui ont été créés au commencement. Donc, il se réfère au mariage. Dans 1 Timothée, on voit « car Adam a été formé le premier et Ève ensuite ». Ou dans Romains 5, « la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam ». Si on comprend que Moïse est un personnage historique réel, Adam l'est aussi. Je ne vois pas pourquoi on devrait douter de cela. Mais le danger est là qu'une pensée comme ça peut s'infiltrer dans nos églises. Donc Dieu créa l'homme et la femme, et il les créa à son image. Une image, c'est une représentation d'un être. Par exemple, je pourrais dessiner le visage d'Alex, puis ça va être une image qui va représenter Alex. Une image peut être semblable ou pas très semblable. C'est sûr que si tu viens me voir à la fin du culte et je dessine ton visage, ça ne sera pas très, très ressemblant. Mais ici, il y en a qui sont très bons, mais je ne suis pas rapide. Mais ici, Dieu ajoute un autre adjectif à son image, à sa ressemblance. Non seulement c'est une image qui sert à représenter Dieu, mais elle lui ressemble. Elle est semblable à lui dans ses caractéristiques. En voyant l'homme et la femme, en voyant l'être humain, on devrait pouvoir voir Dieu. On devrait apprendre à connaître Dieu en observant l'être humain. Donc, l'homme n'est pas seulement une image symbolique de Dieu, comme un sigle. Il lui ressemble. Et dans Genèse 5, 1 à 3, la même expression est donnée. Si vous voulez tourner un peu plus loin dans Genèse 5, qu'on va voir dans quelques semaines, où il est présenté une généalogie, les descendants d'Adam. Genèse 5, 1, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'homme, au commencement où ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. » C'est exactement la même expression. Autant Seth ressemblait à son père, il avait deux bras, deux jambes, deux yeux, même sûrement un caractère semblable à son père, les mêmes caractéristiques que son père. Mais la même expression est utilisée pour dire qu'Adam ressemble à Dieu. Et si nous ressemblons à Adam parce que nous sommes des fils d'Adam, mais nous sommes des fils de Dieu, à son image. L'homme est la représentation de Dieu sur la terre. Une autre façon de le dire, c'est que l'homme est le représentant de Dieu sur la terre. S'il est l'image de Dieu, c'est qu'il a le rôle d'être l'image de Dieu et de porter son image. Le mot « homme » dans le sens de « être humain »,« homme » avec un H majuscule, là, en hébreu, c'est « Adam », « Adam ». Donc, Daphné, t'as marié un vrai homme. Oui, il n'est pas ici. C'est le nom du premier homme mâle aussi. Puis ce nom signifie « de la terre », parce que le mot « terre », c'est aussi « Adama ». Donc, c'est vraiment pour dire que l'homme est l'image de Dieu sur la terre. Il sert à représenter Dieu dans sa création. Donc, Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas voulu être distant, il a voulu être là, dans sa création, et ça passe par l'être humain, par sa créature. Il est le représentant non seulement dans son rôle, mais dans son être même, le représentant de Dieu. Et ce qui est important de souligner quand on lit, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Et ici, si on traduisait littéralement, homme et femme, c'est mâle et femelle de la race des humains. Il a créé la version mâle et la version femelle de la race des humains à son image. Autant l'homme masculin que l'homme féminin, l'homme et la femme, les deux, sont les représentants de Dieu à l'image de Dieu. Mais comme on va le voir plus tard, dans les prochaines semaines, ils ont des rôles différents, mais chacun est un humain à part entière. Et les deux sont représentants de Dieu sur la terre. Le fait qu'on représente Dieu et qu'on lui ressemble, c'est un grand honneur qu'il nous fait, non? Le Dieu créateur. Et c'est une grande bénédiction dans sa grande générosité, dans sa grâce. Lui qui nous a fait supérieurs à la création. On se sent petit lorsqu'on regarde les étoiles, puis les myriades d'étoiles, les systèmes solaires, les galaxies. On se sent tout petit comme un petit microbe qu'on pourrait tuer d'une pichenette. Mais Dieu nous présente l'homme comme étant supérieur à sa création, une place d'honneur. Le psaume 8 nous le rappelle. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les bœufs. Tu lui as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » C'est une grande générosité de nous avoir placés juste en dessous de lui. Comprendre que l'homme est à l'image de Dieu, c'est de comprendre qu'il a une domination sur la création, une domination qui est déléguée par Dieu. Être à l'image de Dieu a une responsabilité. Et le rôle qu'il nous a confié sur la planète, c'est de dominer sur la création. Mais c'est une domination déléguée. Notre autorité vient de celui qui a toute autorité. Et le premier acte d'autorité que l'homme a posé sur la nature, ça a été de nommer les animaux. Comme Dieu a démontré qu'il avait toute autorité en donnant des noms aux choses, à la terre, à la mer, mais il a délégué cette autorité-là à l'homme. Et le premier jour, on va le voir la semaine prochaine, mais il a présenté les animaux à Adam, et Adam les a nommés. Ça a été le premier acte d'autorité. Et comprendre que l'homme est à l'image de Dieu nous aide à comprendre pourquoi que Dieu a interdit dans sa loi, comme on le voit plus tard dans la loi qu'il a donnée par la bouche de Moïse, Dieu a interdit de se fabriquer des images de Dieu. Parce que c'est l'homme qui est l'image de Dieu. On ne devrait pas prendre quelque chose qu'on invente de nos mains, qu'on fabrique, et dire « voici l'image de Dieu ». Nous sommes l'image de Dieu. C'est un sacrilège que de prendre une autre portion de la création et d'en faire l'image de Dieu. Ça nous aide aussi à comprendre, lorsque Jésus nous donne le plus grand commandement, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, et qui dit que le deuxième commandement lui est semblable. C'est d'aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est semblable à aimer Dieu, parce que notre prochain est semblable à Dieu. Mais on voit bien une différence évidente entre Dieu et l'homme. Bien, de part, premièrement, les attributs de Dieu qui sont plus magnifiques que l'homme, c'est sûr, il est tout-puissant, omniscient, omniprésent. Mais une différence évidente, c'est aussi que Dieu est pur. Dieu est sans tache, et malheureusement, l'homme n'est plus pur. L'homme a fait le mal et fait encore le mal. On pourrait croire que lorsqu'Adam et Ève ont péché, on va le voir dans deux semaines, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ce qu'on appelle la chute de l'humanité, on pourrait croire que l'image de Dieu est partie. C'est vrai que l'image a été ternie. C'est vrai que l'homme, c'est comme si on prenait l'image de Dieu et qu'on la salissait. C'est vrai que l'homme maintenant est une image ternie, salie de Dieu. Mais l'homme est toujours un fils d'Adam, est toujours créé à l'image de Dieu. Si on le voit plus loin dans la Bible, on voit dans Genèse 9, après que Noé soit sorti de l'arche, puis que là, Dieu lui donne sa volonté, une volonté qui est générale, ce n'était pas encore la loi donnée par la bouche de Moïse. Là, il donne sa volonté et il déclare quelles sont les conséquences du meurtre. Si quelqu'un vient qu'à tuer une personne. Et Dieu dit à Noé, « Aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Même si l'homme est devenu une image salie de Dieu, il est encore à l'image de Dieu. Et aux yeux de Dieu, il a cette même valeur de dignité. Et si un homme enlève la vie à un homme, il est entré dans la vie à un représentant de Dieu, qui porte l'image de Dieu. On voit cela dans 1 Corinthiens 11 aussi. Paul explique un certain comportement qui était convenable à l'époque, que les hommes ne devaient pas être voilés. Il dit, l'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. On voit dans Jacques aussi, dans Jacques 3:9, Jacques nous explique pourquoi il est grave d'utiliser sa langue pour maudire quelqu'un, pour souhaiter du mal à quelqu'un. Pourquoi c'est grave? Mais il dit, par elle, par cette langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. C'est illogique. Lorsqu'on comprend que les êtres humains sont l'image de Dieu sur la terre, on ne peut pas bénir le Créateur et maudire sa créature faite à son image. Donc, nous sommes encore à l'image de Dieu. Et lorsqu'on regarde les hommes et les femmes sur la planète, on devrait les voir comme des créatures faites à l'image de Dieu, à qui on doit respect. On devrait traiter tous les humains avec dignité. La manière dont une société traite ses personnes âgées en dit long aussi sur les valeurs de la société. La manière dont une société traite ces personnes âgées est un bon indicateur du degré, soit de civisme ou de dépravation de la société. C'est affreux de voir certains qui vont dire à la légère on devrait s'en débarrasser. Ou c'est affreux de voir des gens qui, littéralement, vont se débarrasser de leurs parents en les plaçant ailleurs, en n'allant jamais les visiter ou en ne se souciant pas d'eux. À cause d'eux, leurs parents vont terminer leur jour non dans la dignité, mais dans une honte, eux faits à l'image de Dieu. C'est affreux d'entendre certains parler, oser même parler de l'euthanasie comme étant une solution à la surpopulation, ou l'euthanasie comme étant une solution à la gestion des finances pour réduire les dépenses publiques. On traite la vie de l'homme avec peu de valeur souvent. Mais c'est parce que Dieu nous a fait à son image qu'on peut profiter du monde qu'il a créé pour nous. On voit que Dieu a créé l'homme comme dernière étape de sa création, il l'a placé. Puis on voit qu'il a fait le ciel avec les étoiles, le soleil, la lune pour l'éclairer. Non seulement il a placé l'homme comme représentant, comme son représentant, son image sur la terre, mais il a voulu son bien, il a voulu qu'il profite de cette création. Et ce n'est pas un hasard si on trouve que la nature est belle. On pourrait avoir été fait pour détester le vert des montagnes, ne pas aimer le bleu du ciel, mais on aime ça. Ça tombe bien. On apprécie la beauté de Dieu. On voit qu'il l'a créé, que Dieu a pris la peine de faire des choses belles pour qu'on l'apprécie pour nous. Il a placé l'homme créé à son image pour apprécier sa créature, sa création. Et Dieu a béni l'espèce humaine en la plaçant sur la terre. Et la première bénédiction qui est listée, c'est « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, fondez une famille, ayez des enfants. » En cela, les enfants sont présentés comme une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas tous les parents qui peuvent le dire à tout moment. Mais la Bible dit dans Psaume 127, « Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de ta jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Bon, c'est difficile aujourd'hui dans le contexte qu'on vit d'avoir de grosses familles, mais on est tous d'accord que des enfants, c'est une bénédiction. Ça fait la joie des parents. C'est une source de bien. Et les enfants sont supposés être une source de joie. Lorsqu'ils sont une source de trouble, il y a peut-être une part de responsabilité des parents dans la situation. Mais c'est une bénédiction. Et cette bénédiction-là avait un but. C'était de nous faire du bien, mais c'était aussi dans un but déclaré de remplir la terre, de la soumettre, de dominer sur la création. Donc, l'être humain n'est pas un animal, comme la science nous le dit. C'est ce qu'on va apprendre à l'école. Dans le règne animal, il y a les fauves, il y a toutes les espèces, et il y a une autre espèce qui est l'être humain. L'être humain est placé au rang des animaux. C'est vrai qu'on a des ressemblances là, dans notre métabolisme, on est un mammifère, mais la Bible ne nous présente pas comme un animal. Mais selon la pensée qui est de plus en plus populaire, la valeur d'une vie animale, et même la valeur d'une plante, j'ai déjà entendu dire ça, là, qu'on ne devrait pas couper un arbre, parce que la valeur d'un arbre, c'est un être vivant comme nous, il a même valeur qu'un être humain. Donc, les humains, le devoir des humains serait de partager la planète équitablement entre les plantes, les animaux et les humains. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. C'est sûr qu'on a une responsabilité de prendre soin de la création de Dieu. Il me semble qu'un chrétien ne devrait pas polluer de façon volontaire ou gaspiller les ressources. Mais c'est clairement dit que l'homme doit dominer sur la nature. Il est à part. C'était sûrement prévu par Dieu que l'homme utiliserait les animaux, peut-être comme moyen de transport, comme aide à l'agriculture. L'homme devait cultiver, mais à l'origine, ça devait être facile de cultiver. Ou comme animal de compagnie. Ou pour le simple plaisir d'observer les animaux, la créature de Dieu. Mais à l'origine, l'homme ne devait pas les tuer. pour s'en nourrir. Il était végétarien, le texte le dit clairement. Je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. On comprend aussi que même les animaux étaient végétariens, mangeaient de l'herbe. Donc, il n'y avait pas de mort à l'origine. Ça, on va le voir la semaine prochaine aussi. Mais c'était un monde de paix. Ce n'est pas la loi de la jungle. Tout était très bon. Il n'y avait pas de mort parce que la mort est mauvaise. Il n'y avait pas de mort ni humaine ni animale. Tout était très bon. Mais après la chute, on voit la mort qui est entrée. Et d'ailleurs, c'était l'avertissement de Dieu. Puis on peut supposer que les hommes ont commencé à manger de la viande après la chute, parce qu'Abel avait un troupeau, parce qu'il a pris une des bêtes pour la sacrifier. Mais ce n'est pas sûr qu'il mangeait de la viande, on pourrait en débattre, là, parce qu'il pouvait avoir un troupeau pour récolter la laine ou le lait. La première indication qu'on a que l'homme est devenu carnivore, c'est après le déluge, parce qu'il sort de l'arche. C'est Dieu qui dit, Dieu bénit Noé ainsi que ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, la même bénédiction. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre. Oh, là on voit une différence. Là, c'est pas juste de les dominer et d'être leur maître. À partir du déluge, là, Dieu a déclaré, c'est ça qui allait arriver, là, les animaux vont craindre l'être humain. Pour tout oiseau du ciel et tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Donc après le déluge, les animaux ne sont plus seulement soumis à l'homme, ils en sont terrorisés. Mais à quoi l'image de Dieu dans l'homme le rend différent des animaux sur plusieurs aspects, c'est sûr. La première différence, puis la Bible en parle à de nombreux endroits. La première différence, c'est que l'homme a une âme. Il a une conscience d'exister. Et cette conscience-là même est éternelle. Lorsque son dernier souffle sort de son corps et qu'il meurt, son âme dure. Mais il y a seulement l'être humain qui a conscience d'exister. Un animal peut nous sembler très intelligent, mais il ne sait même pas qu'il existe. Il ne se pose pas des questions d'où je viens, où je vais. L'être humain est le seul qui a conscience. L'être humain est le seul qui est intelligent, qui est curieux pour s'intéresser à des choses qui n'ont pas à faire directement avec sa survie. Tous les autres êtres veulent se nourrir, veulent se loger. Oui, monsieur? OK, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait des animaux qui auraient pleuré de tristesse. Mais je pense que les animaux sont là aussi pour... Dieu les a créés pour pouvoir interagir avec l'être humain, comme on voit clairement qu'un chien se réjouit lorsque son maître arrive. Mais on pourra en débattre, là. Mais je ne crois pas que le chien est conscient, qu'il réfléchit, qu'il fait des plans, qu'il s'intéresse, qu'il est intelligent, qu'il est curieux. Il peut avoir des émotions purement physiques. L'être humain est le seul qui peut imaginer des choses, travailler de ses mains, inventer à l'image de Dieu. Ça, on le voit dans Exode. On voit dans Job aussi, parce que Job dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. On a des oreilles pour entendre parler de Dieu, pour comprendre. On a des yeux pour voir Dieu agir, pour voir l'œuvre de Dieu se manifester. On a la capacité de parler, de communiquer, la capacité de louer le Seigneur, d'être en communion avec le Créateur. On a des sentiments pour pouvoir comprendre l'amour de Dieu pour nous et pour pouvoir l'aimer en retour et pour pouvoir démontrer cet amour-là par l'amour qu'on a avec nos frères. En particulier dans l'amour du couple. Puis une autre différence, c'est la conscience du bien et du mal. Savoir qu'est-ce que c'est que d'obéir au Créateur, savoir qu'est-ce que c'est que de lui désobéir. Être conscient avoir une pensée des conséquences, et même des conséquences éternelles qui peuvent suivre un mauvais comportement, la conscience du mal. Mais comme on l'a dit tantôt, l'image de Dieu a été ternie par le péché, puis l'homme terrestre a été corrompu, souillé. L'être humain terrestre, même s'il est fait à l'image de Dieu, ne peut plus être en relation directe avec Dieu, comme il était dans le jardin d'Éden, à moins que Dieu n'intervienne par son esprit. On a vu qu'il l'a souvent fait dans l'Ancien Testament, comme il a interagi par son esprit pour diriger son peuple, et comment il le fait abondamment dans le Nouveau Testament. Son esprit habite en nous. Est-ce que le fait qu'on ait été fait à l'image de Dieu est encore important, puisque ça a été terni, et puisque Dieu a comme résolu le problème en envoyant son esprit? Est-ce que c'est encore important de se soucier qu'on est à l'image de Dieu? Est-ce que pour Dieu, c'est encore important? Je crois que oui. C'est encore important pour Dieu parce que son... Mais comme, même si son image a été corrompue, Dieu a décidé de faire une nouvelle création. On le voit dans le Nouveau Testament, c'est le mystère qui nous est révélé. Et dans cette nouvelle création-là, d'être à l'image de Dieu, c'est encore très important, c'est même central. Cette nouvelle création a débuté quand Jésus est ressuscité des morts. Quand il a vaincu la mort, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Cette nouvelle création-là a commencé. Et comme la première création avait été faite par Christ, mais la nouvelle création aussi est faite par Christ, elle est faite en Christ. Et dans cette nouvelle création, au lieu de commencer par les cieux et la terre, pour mettre finalement l'homme à son image, dans cette nouvelle création spirituelle, Dieu commence par l'homme. Et un jour, les cieux et la terre vont être refaits. Dans Éphésiens 2,10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus ». Et on n'a pas été créé n'importe comment. Les nouvelles créatures sont aussi faites à l'image de Dieu, à l'image de son Fils. Dans Romains 8,29, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit, lui le Fils, le premier-né d'un grand nombre de frères. » Donc, comme Jésus a un corps glorifié, un corps puissant, nous aussi, un jour, on aura un corps glorifié, un corps qui ne vieillit plus, qui n'est plus malade, qui n'est jamais fatigué, qui n'est pas obligé de prendre du café. 1 Corinthiens 15 nous dit, c'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. » Et ce n'est pas le spirituel qui est le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, Adam, est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, de père en fils depuis Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est vrai que nous, notre corps, en tant qu'image de Dieu, est terni et corrompu. Mais Dieu a comme projet de nous renouveler et de nous donner un nouveau corps, conforme à sa nouvelle création, à l'image de Jésus, qui est à l'image de Dieu. Mais en attendant ce jour de gloire, nous sommes déjà progressivement transformés à l'image de Christ. Dans 2 Corinthiens 3, « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Vous voyez dans votre bulletin, c'est comme si Dieu nous tient dans sa main. Il est en train de nous graver, de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Et au commencement, l'homme fait à l'image de Dieu était le couronnement de sa création, puis il en a aussi été la terminaison. Dieu dit qu'après avoir créé l'homme, c'était la fin. Il s'est reposé le septième jour, d'avoir complété sa création. Le septième jour, c'est un jour spécial, un jour mis à part pour Dieu, qui lui appartient seul. Le point principal, ce n'est pas que Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu peut être fatigué? Non, c'est une image, mais le point principal de ce verset, si on le relit, chapitre 2, verset 2, « Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu a faite, que toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. » C'est ça le point principal, c'est que l'œuvre de Dieu était achevée, c'était terminée. Dieu n'a plus créé de nouvelles espèces par la suite, même pas d'espèces extraterrestres. Après la création, c'était terminé. Le sabbat de Dieu est présenté comme n'ayant pas de fin. C'est un repos. Dieu a terminé la création le septième jour. Le septième jour a continué. C'était la volonté de Dieu qu'en plaçant l'homme sur la terre, qu'il soit dans le sabbat de Dieu, qu'il soit dans le repos de Dieu. À l'image de son Dieu, que l'homme soit dans le repos. Est-ce que Dieu ne fait plus rien depuis ce jour? Il est en repos, il a pris ses distances. On sait que non, Dieu travaille encore. Jésus le dit dans Jean 5. Cet homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Et mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. » Mais c'est l'œuvre de création qui était terminée à la fin du sixième jour. Et plus tard, le septième jour de la semaine a été mis à part pour Dieu en mémorial. Lorsqu'on voit, lorsque Dieu donne sa loi au peuple d'Israël par Moïse, il leur donne un mémorial pour se souvenir de l'œuvre créatrice, de la toute-puissance de Dieu. Se souvenir de leur Dieu qui avait complété son travail. Dans Exode, il dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, tu feras tout ton ouvrage. Assure-toi d'avoir complété ton ouvrage. » C'est ça le mémorial qu'il devait préparer pour se souvenir que Dieu avait tout complété, Dieu le Tout-Puissant. « Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. » Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. On voit dans Deutéronome aussi, Deutéronome 5, le but du sabbat. Pourquoi il leur a donné ça? Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Selon sa toute-puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat, comme un mémorial de ce que Dieu avait fait. Ce mémorial, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, on peut comprendre que c'est la table du Seigneur. Lorsqu'on célèbre la communion, le repas du Seigneur ensemble, on se souvient de ce que Christ a fait et qu'il a tout accompli. Plus rien n'a besoin d'être accompli pour être sauvé. Pour faire partie de cette nouvelle création, tout a été accompli. L'œuvre créatrice a été accomplie. Est-ce qu'on devrait encore aujourd'hui observer, pratiquer le jour du sabbat de manière littérale? Je crois que non. Jésus a dit clairement qu'il est le maître de tout, incluant le sabbat. Ceux qui sont en Jésus n'ont plus à être dominés par aucune institution comme le sabbat. Ils doivent faire ce que Jésus leur dit de faire et ne pas faire ce que Jésus leur dit de ne pas faire. On est vraiment sous l'autorité de Dieu. Toute notre vie doit être contrôlée, dirigée par Dieu, selon ses principes, selon sa volonté. Et de toute façon, d'être avec Jésus, c'est d'être dans le sabbat. Ce n'est plus une journée par semaine, c'est 24 heures sur 24. Jésus dit, « Venez à moi, je vous donnerai du repos. » On entre dans le sabbat de cette nouvelle création. Comme Adam et Ève, à l'origine, étaient dans le sabbat de la première création. Ils ont chuté, mais Dieu, dans son plan, a réparé les choses. Et dans cette nouvelle création, lorsqu'on entre en Jésus, on est dans le sabbat éternel. Là où toute œuvre est superflue. Dans Hébreux 4, il est dit, « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans le repos subsiste, parce qu'il est encore possible, la promesse subsiste, mais un jour, il va être trop tard. Craignons donc que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer. Mais Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, nous sommes dans ce jour. Ce jour qui dure 2000 ans et qui va durer jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité, nous sommes dans ce jour. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne dites pas, ah, j'ai le temps. De toute façon, si j'accepte le Seigneur d'ici la fin de mes jours, je vais être correct. Tu ne sais pas, peut-être c'est aujourd'hui la fin de tes jours. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. On n'a plus à lutter pour se sortir du pétrin, se sortir de la mort, qui est la malédiction de l'humanité. On est amené à la vie, on se repose de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe. Donc, est-ce que l'homme a de la valeur? Quelle est votre valeur aux yeux de Dieu? Le récit de la Bible dévie l'attention sur notre propre évaluation. C'est l'évaluation de ce que Dieu pense de l'humanité qui est important. Ce que l'on croit, nous, comme étant la valeur de l'homme, a peu d'importance. Même ce que l'on croit comme étant notre propre valeur a peu d'importance. Lorsqu'on se sent déprimé, qu'on pense qu'on ne vaut rien, que les gens ne nous aiment pas, puis ils ont raison de ne pas nous aimer, à cause de la gaffe qu'on a faite. Mais souvenons-nous que pour Dieu, on est une créature faite à son image, extrêmement précieuse. Aux yeux de Dieu, certainement, il a créé l'univers dans l'intention de placer l'homme au centre. Puis il l'a fait à son image pour dominer sur la terre, pour être en relation avec lui. Puis Dieu aime sa créature. Au point même qu'après la chute, Dieu veut restaurer son image en nous. L'image qui a été ternie, Dieu veut la restaurer. Ça montre à quel point sa créature est importante pour lui. Il veut la restaurer suivant le modèle de son Fils, suivant le modèle de Jésus. Dieu veut nous faire du bien au point où il veut nous donner le repos éternel, le repos céleste, notre bien le plus précieux, notre espérance, ce qui devrait nous donner la joie et notre motivation, notre raison d'être, jusqu'au retour de Christ. Donc, si vous doutez de votre valeur, pensez que Dieu a payé très cher pour ce prix-là. Dieu a payé très cher pour que l'image ternie soit restaurée à l'image de son Fils. Il a fallu qu'il donne la vie de son Fils. Le prix le plus précieux. Donc, si Dieu a été prêt à payer, à donner ce qu'il y avait de plus précieux pour vous, comment vous pouvez douter que vous avez de la valeur? Que Dieu nous aide à se voir à la juste valeur de Dieu, à s'aimer les uns les autres comme étant des dignes êtres humains créés à l'image de Dieu. Amen.